Bonjour à toi qui m'écoutes, c'est le retour des beaux jours et de la chaleur. J'espère que tu passes une agréable journée, que tu sois en train de rentrer des cours, de bosser ou juste de souffler un peu. Tu es sur Étudiant Time, l'émission qui parle de ta vie d'étudiant sans filtre, avec des sujets qui t'intéressent vraiment. Moi c'est Myria, étudiante en psychologie à l'UCO, et comme d'habitude, je suis entourée de Malo qui est avec nous pour te parler culture et sortie, Colin pour le journal étudiant et le Focus, et aujourd'hui on recevra aussi une invitée un peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, dans Étudiant Time, on va commencer avec le journal étudiant présenté par Colin, puis on enchaînera avec l'actu culture de Malo, on fera une petite pause musicale, ensuite on prendra un temps pour un débat autour de l'actualité, Colin reviendra avec un focus étudiant sur l'ESA, on s'accordera une nouvelle pause musicale, puis je recevrai Emma pour une interview critique autour des voyages humanitaires. On parlera ensuite santé mentale avec une étude qu'on a menée sur le jugement, et on terminera avec le mot de la fin de Malo. Allez, on commence tout de suite avec ce qui te concerne directement, toi qui m'écoutes, le journal étudiant présenté par Colin. Colin, à toi le micro.
J'ai l'info, l'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
Bonjour Myria, bonjour Malo et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler Parcoursup, inclusion à l'Université d'Angers et la nouveauté à la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. On commence donc ce journal avec un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous et pas seulement les lycéens. Parcoursup, c'est le marathon de l'orientation et en ce moment, on est pile dans la période la plus stressante. Les inscriptions étaient ouvertes du 19 au 12 mars et le 1er avril était la date limite pour finaliser les dossiers et confirmer ses vœux. Autrement dit, à l'heure où vous nous écoutez, les dés sont jetés, les dossiers sont entre les mains des formations. Et maintenant, on attend, les premières réponses d'admission ne tomberont pas avant le 2 juin. Deux mois d'incertitude pour des milliers de lycéens et aussi pour pas mal d'étudiants qui envisagent une réorientation. Une bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université d'Angers maintenant. L'Université d'Angers a lancé un projet qui s'appelle INCLE-UA. Le principe, faire travailler ensemble des étudiants et des enseignants pour rendre les cours plus accessibles à tous. Et en particulier aux étudiants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, un TDAH, une dyslexie, une dyspraxie ou encore une dyscalculie. Des profils souvent invisibles en amphi mais bien présents sur les campus. Des binômes ont été formés depuis la rentrée, composés d'un étudiant et d'un enseignant, qui échangent régulièrement sur ce qui pourrait être amélioré. 12 étudiants et 10 personnels ont déjà répondu à l'appel. Et les résultats sont concrets. Un enseignant témoigne avoir revu ses pratiques. Il présente désormais le contenu du cours en début de séance, fait attention aux polices et couleurs utilisées dans ses documents et se déplace dans la salle pour s'assurer que tout le monde l'entend bien. Et bonne nouvelle, le projet recrute de nouveaux volontaires dès ce mois d'avril. Donc si vous êtes concerné ou si vous voulez simplement vous engager, c'est le moment de vous manifester auprès du pôle accompagnement, réussite et inclusion de l'Université d'Angers. Et pour finir ce journal, une petite info culture et pas des moindres. Ce soir, si vous n'avez rien de prévu après les cours, c'est le moment d'aller faire un tour en centre-ville. La ville d'Angers inaugure ce jeudi 9 avril la galerie contemporaine de la cathédrale Saint-Maurice, une nouvelle extension conçue par l'architecte japonais Kengo Kuma. La soirée commence à 18h avec une cérémonie officielle, puis un spectacle entre 19h15 et 20h15 qui mêle funambule, chant, harpe japonaise, danse contemporaine et théâtre. Et surtout, et c'est ce qui nous intéresse en tant qu'étudiants, à partir de 20h30, l'accès à la galerie est entièrement libre et gratuit pour tout le monde. Donc ce soir, rendez-vous en bas de la montée Saint-Maurice, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est le genre d'événement qu'on ne voit pas souvent à Angers. Des visites guidées gratuites seront proposées les samedis suivants, entre 12h et 18h, sur la place Monseigneur Chapouly, sur réservation. Une belle façon donc de profiter de la ville autrement qu'entre les murs du campus. Voilà pour moi en ce qui concerne les informations principales, et j'aimerais maintenant éventuellement revenir avec vous sur la deuxième information que j'ai présentée et le projet d'inclusion de l'Université d'Angers. Donc je voulais savoir rapidement si vous en aviez entendu parler et puis ce que vous pensez de ce genre de programmes qui sont de plus en plus mis en place par les différentes universités.
Moi je ne connaissais pas du tout. Voilà, Malo, je ne sais pas pour toi.
Non, je ne connaissais pas du tout non plus.
Voilà.
Et votre avis, c'est forcément quelque chose de positif ou vous pensez que... Ouais, ça a marché comme genre de...
Ce serait grave bizarre si on avait un avis négatif, en vrai.
On est d'accord là-dessus.
C'est vrai.
Non, c'est trop bien.
C'est chouette.
Et ouais, vous connaissiez pas d'autres établissements qui éventuellement faisaient ça avant ?
Pas du tout.
Non, du tout. Ok. Et donc, c'est tout pour moi pour ce journal étudiant. Entre Parcoursup, mission inclusion à l'Université d'Angers et l'inauguration de la galerie contemporaine de la cathédrale Saint-Maurice, l'actualité continue d'accompagner la vie étudiante. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur les infos qui vous concernent, vous, les étudiants.
Merci Colin pour ces actus. On va rester un peu dans ce qui se passe autour de nous, mais cette fois côté culture. Malo, qu'est-ce que tu as repéré pour nous cette semaine ?
Je vais te le dire tout de suite. Alerte du web 3.0, on se retrouve chaque jour avec un tas de contenu disponible, n'importe quand, n'importe où. Et quand on sait que tous les jours, 720 000 heures de contenu sont mises en ligne rien que sur YouTube, il y a également pas mal de n'importe quoi. À Radio G, on s'est donc donné pour mission de vous conseiller des musiques, des films, des séries, des jeux vidéo, en bref, du contenu culturel qualitatif pour que vous fassiez autre chose que regarder l'île de la Skibidi Tentafruit, parce que franchement, il y a tellement mieux à faire que de mater cette merde. Dans cette chronique, je vais donc vous présenter deux sorties ou événements culturels du moment, et puis j'en profiterai pour vous faire subir un petit tunnel sur une œuvre d'art que j'apprécie. On commence avec mon bébé. Ça fait 13 ans depuis le dernier opus, et si vous êtes un tout petit peu dans la sphère Nintendo, vous en avez forcément entendu parler. Je parle bien sûr de Tomodachi Life, une vie de rêve, qui sortira le 16 avril sur Nintendo Switch 1 et 2, et dont la démo est d'ores et déjà disponible depuis quelques jours. Si vous ne connaissez pas cette licence, déjà je vous plains, mais pas de panique, car je vais tout vous expliquer. Dans ce jeu, vous créez des petits avatars virtuels appelés des Mi pour peupler une île déserte. Le but du jeu étant de les faire interagir entre eux et de s'occuper d'eux pour s'assurer qu'ils aillent bien. Dans le dernier jeu qui était sorti donc il y a 13 ans sur DS, mes trois premiers Mi avaient été le caissier d'Espace Anjou qui nous avait vendu le jeu parce que, pourquoi pas, mon amoureuse de l'époque et bien sûr, moi. Dans ce nouvel opus, tout est mieux. Plus de Mi, plus de customisation, plus de boutiques, de rêves bizarres et d'interactions possibles. Il y a quelques jours, donc, la version de démonstration du jeu a été rendue disponible gratuitement pour nous laisser créer 3 Mi et nous faire découvrir les nouvelles fonctionnalités du jeu. Notamment la découverte de l'absence de filtrage de vulgarité, ce qui fait que sur mon île, Arya Stark et moi, on est devenus besties en ayant parlé de, je cite, « cette salope de Cersei » et que Macron joue seul sur la plage quand je le force pas à manger des trucs qu'il déteste. J'adore. Pour continuer, j'aimerais vous parler d'un artiste que je surkiffe. C'est un mélange entre du rock japonais et de la funk. C'est l'incarnation de la phrase « good vibes ». C'est très simple. Là, maintenant, vous allez vous imaginer une île tropicale. L'eau turquoise, le sable fin, les palmiers, le soleil, etc. etc. Maintenant, vous vous imaginez une bande son pour cette ambiance. Et bah, c'est de ça qu'on parle. Masayoshi Takanaka, c'est ça. Enfin, le mec est tellement dans le truc qu'il a carrément une guitare en forme de planche de surf. Je vous conseille vraiment d'aller écouter toute la discographie du gars, même si je sais pertinemment que vous n'allez pas le faire. Si vous savez pas par où commencer, commencez par l'album Seychelles, sorti en 1971. Et je suis tellement sûr de mon karaté que je vous mets au défi d'aller écouter une seule musique de ce type et de pas aimer. La musique, c'est O Twango Certe. Un son en espagnol fait par un japonais, c'est forcément un turbo banger. Si je devais choisir une seule musique à écouter jusqu'à la fin des temps, ce serait probablement celle-ci. Il n'y a pas un seul moment où c'est une mauvaise idée de l'écouter. O Twango Certe par Masayoshi Takanaka. Allez écouter ça, vous ne le regrettez pas. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un événement qui vous concerne, qui se passe ce week-end à Angers et qui sera couvert par la radio, la Geekfest. Les 11 et 12 avril se déroule la 16e édition de la Geekfest au Parc Expo. La Geekfest, c'est plus de 15 000 m² d'exposition, 280 exposants et exposantes, ainsi qu'une quarantaine d'invités de renom pour mettre à l'honneur la pop culture. On y parle de jeux vidéo, de manga, de comics, de cosplay ou encore de musique. C'est l'occasion d'aller choper des figurines, des cartes Pokémon, des illustrations, de participer à des tournois de jeux vidéo, de faire des parties de jeux de société entre amis ou de montrer vos jolis cosplays. Et contrairement à ce que le nom laisse penser, c'est pas juste un truc de gros puant. Comme dit précédemment, il y a la possibilité de jouer à plein de jeux de société, ce qui est très fun comme activité entre potes. Il y a des conférences, mais c'est aussi le moment d'aller soutenir plein de petits artistes. Alors certes, il y a quelques posters avec des filles qui ont l'air bien trop jeunes pour être aussi sexualisées, mais il y a surtout un tas d'artistes hyper talentueux qui seront tous et tous très contents de discuter avec vous si vous leur prenez un badge, une affiche ou un vêtement. Voilà, c'est tout pour cette chronique et j'en profite pour demander à mes camarades sur le plateau, est-ce que vous comptez y aller à la Geekfest ? Est-ce que vous y êtes déjà allé ? Est-ce que ça vous intéresse ?
Alors moi, j'étais pas du tout, pour le coup, au courant. Je m'étais pas renseigné sur le sujet, donc c'est une très bonne chose à savoir. Bon, en l'occurrence, je suis pas là ce week-end. Donc ça va être plus compliqué, mais je vais suivre pour les prochaines fois parce que ça reste intéressant, bien que c'est un univers, comme tu l'as dit, qui moi m'est assez loin, mais je reste curieux, du coup, pourquoi pas.
Pour ma part, tous les ans, je me dis qu'il faut que j'y aille et je demande à mon petit frère qui adore les jeux vidéo s'il veut y aller. Et à chaque fois, il me dit oui, puis on n'y va pas. Voilà.
C'est l'occasion d'y aller cette année.
C'est vrai, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup Malo. Est-ce que tu avais d'autres questions à nous poser ? Alors, on va faire une petite pause musicale avant de revenir pour discuter ensemble. Une chanson plutôt good vibes, comme dirait Malo, pour aller avec la météo. Je te fais écouter à l'horizo par Bon Entendeur. Reste avec nous et bonne écoute. Sur Radio G dans Étudiant Time, on vient d'écouter Allo Réseau par Bon Entendeur. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on va prendre quelques minutes pour en discuter ensemble. On n'est pas obligé de parler des choses glauques, mais en tout cas, on peut parler d'actualité, on peut parler des séries qu'on a vues récemment, des films, juste papoter un peu entre nous sur le plateau. Est-ce que vous regardez une série en ce moment ?
Ah, c'est moi qui commence.
Si tu veux.
Alors ça va vous décevoir parce que je regarde pas de séries.
C'est vrai, jamais.
Je regarde des séries que si je suis avec quelqu'un. Sinon je fais pas grand chose en fait.
Ok. Genre tu fais pas grand chose.
Non, je me suis mal exprimé. En fait, si je regarde une série seule, je vais faire autre chose à côté et du coup je vais pas être focus sur la série. Du coup je vais me dire ça sert à rien.
C'est à cause de toi que maintenant dans les séries, eh ben il faut exprès de répéter 4 fois la même action pour que la personne puisse suivre en faisant quelque chose à côté.
Je suis désolé.
Je te déteste. Non, je rigole. Non mais je comprends. Enfin, en plus si tu, ça peut être chouette si tu veux dessiner à côté, si tu veux faire du ménage et tout et que tu fais un bruit de fond. Mais bon, il y a des podcasts sinon. Colin, est-ce que tu regardes une série en ce moment ?
Ouais, ça faisait un moment que j'avais pas regardé de série parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment. Mais il y a pas longtemps, j'ai commencé Un Prophète sur Canal.
Eh, j'ai jamais entendu parler de ça.
Je sais pas si vous voyez, c'est assez récent du coup. Et en fait, c'est une série qui est adaptée un film sorti en 2009, un film de Jacques Audiard, du même nom, un prophète pareil, avec Tahar Rahim, le film. Et la série, c'est... je pourrais pas vous citer les acteurs comme ça parce que je les connais pas. Mais en gros, c'est l'histoire d'un jeune... Mahorais qui à la base survit à un effondrement d'immeuble, mais il survit, mais il a arrêté parce que possession de drogue, etc. Et en fait, la série, c'est toute sa... Parce qu'il est jeune, donc la série, c'est toute sa vie en prison, avec le fait de trouver des alliés pour survivre en prison, le fait qu'au bout d'un moment, il sort, il a des permis sur le week-end, mais du coup, il a pas de famille, du coup, il faut qu'il trouve un peu comment se débrouiller. Donc c'est un peu toute son histoire en prison et le fait de trouver des alliés pour s'en sortir, entre guillemets.
Du coup, c'est basé sur une histoire vraie, j'imagine.
Alors ça, je pourrais pas te dire, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est la série est une reprise d'un film assez connu du même nom.
Ok, et tu sais la date de parution? Enfin, je sais pas si on dit parution.
De la série? La série, je crois que c'est, je vais te dire ça tout de suite.
C'est
mais
récent, non?
Pour moi, la série, c'est 2026. Parce qu'en
ouais,
fait,
du coup, c'est vraiment lié directement aux événements qui se passent à Mayotte.
Oui, voilà. Ouais, c'est 2026, la série.
Ok. D'ailleurs, si vous voulez, on a fait une interview avec une amie mahoraise pour parler de la situation à Mayotte. Ok. Bah, du coup, ça t'a intéressé? T'as trouvé que c'était très politique et tout?
Ouais, voilà. Et puis, comme c'est sorti encore récemment, toute la série n'est pas disponible sur Canal. Il y a un épisode tous les lundis.
Ok.
Du coup, moi, ça évite de...
Est-ce que t'as d'autres plateformes de streaming que Canal ou pas?
Bon, Netflix. Moi, beaucoup Netflix. Ça fait un moment que je suis pas allé dessus, d'ailleurs. Ouais. Mais sinon, ouais, Netflix, enfin, j'en ai pas. En gros,
ça a fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de banger.
De grosses sorties, ouais. Non, mais ouais, moi, c'est Netflix et Canal. Après, tout le reste...
Il y a Prime Video aussi. Et il y a Apple Watch. Apple Watch, pas du tout. Il y a une montre. Non, mais il y a Apple TV.
Ouais.
Merci de pas du tout m'avoir sauvé dans cette situation. Et il y a aussi... sur quoi je regarde, moi? Non, bah c'est tout, je crois.
Il y en a plein. Ce n'est plus si HBO, il y a Param.
Ce n'est plus si HBO.
Salto.
Salto. Oui.
Salto.
Je préfère encore Apple Watch à Salto. Mais... non, j'accorde. Ok, mais c'est vrai que Salto, mais qui c'est qui regarde Salto, en vrai?
Peut-être les gens dans la catégorie d'âge senior.
Sans doute.
Et toi?
Moi, je regarde tout le temps des séries, en vrai. Je passe mon temps à faire ça. Mais notamment en période d'insomnie. Mais ouais, je regarde tout. En ce moment, je regarde vraiment les vieilles séries. Après, j'ai l'impression que je regarde aussi des séries actuelles. Comme j'ai dit, là, il va y avoir la saison 3 d'Euphoria. Je crois que c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines. J'ai très hâte, même si je sais qu'on va tous être très déçus.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment bien, Euphoria ou...
Euphoria, c'est vraiment bien, pour le coup. Surtout, sur l'aspect esthétique, c'est dingue. Les sujets abordés sont hyper pertinents, surtout, je pense, pour les adolescents, en vrai. Mais même en vrai, quand t'es en études sup, ça peut être intéressant. C'est très, très esthétique. Hein. Je l'ai déjà dit en premier, mais parce que c'est vraiment ce qui caractérise la série.
Ouais, moi, j'avais vu la photographie et la musique...
La
musique de la saison 1, mais j'ai jamais regardé.
Et ben, je peux recommander en vrai sans trop bouiller. Ouais, je recommande peut-être pas autant que ton chanteur japonais hyper stylé qui a une planche de surf en guise de guitare, mais c'est quand même stylé. Et sinon, je disais, je regardais les vieilles séries, genre vieilles. On s'entend, mais genre Gossip Girl, les trucs en mode Breaking Bad.
Les classiques.
Oui, genre un peu de les classiques, ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai revu The Boys, en vrai, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux que ça, mais je sais pas si vous avez vu ces séries-là.
J'ai vu beaucoup d'extraits, mais j'ai pas vu perso.
Les Breaking Bad et tout, normalement, en plus, c'est un style de série que j'aime bien, mais je me suis jamais mis à déterre de regarder.
Je comprends. Après, quand c'est long comme ça aussi.
Mais j'ai regardé des séries très longues et plus classiques. J'ai regardé des Prison Break, des Casa de Papel, des Blacklist et tout, des séries qui peuvent être très longues aussi. Mais Breaking Bad, faudrait que je m'y mette un jour ou l'autre.
Est-ce que vous avez des petites recos de films ou de séries?
J'ai regardé il y a deux jours, Nino, je crois, le film. C'est un film, l'acteur principal, Théodore Pellerin, il a. Était révélation masculine au dernier César pour ce film. Et donc je suis tombé sur ce film, pareil, sur Canal. Et c'est un film qui se regarde assez bien, c'est 1h30, donc c'est rapide. Et ça se fait un peu moins aujourd'hui, les films assez courts, donc c'était sympa. Et puis l'histoire est bien, c'est le film il se déroule sur un week-end, donc c'est une c'est assez court. Il se déroule sur un week-end et c'est l'histoire d'un jeune, donc l'acteur en question, qui on lui découvre un peu par hasard qu'il a un cancer de la gorge. Et du coup c'est tout ce week-end-là où lui va appréhender la truc. Il va le dire à demi-mot à ses parents, il va le dire à ses proches. Et comment c'est abordé, c'est assez bien et c'est un beau film. On ressent les émotions, c'est assez sympa.
Ok, chouette. Et ben, merci pour vos points de vue. Et du coup, toi qui m'écoutes, on enchaîne avec quelque chose de très concret pour ton orientation. C'est le Focus étudiant présenté par Colin aujourd'hui à propos de l'ESA. Colin, à toi.
Et donc, dans cette chronique, comme tu l'as dit Myria, je vais vous parler des différents établissements d'enseignement supérieur angevin. Et donc on va commencer avec un focus sur un établissement pas forcément des plus connus, mais qui forme pourtant des professionnels indispensables aux grands défis de demain. Agriculture, alimentation, environnement, ce sont des secteurs qui recrutent massivement et qui sont au cœur des transitions que notre société traverse. Et pourtant les formations qui y mènent restent encore trop peu connues, des lycéens et des étudiants en réorientation. Alors aujourd'hui, je vous emmène découvrir une école fondée à Angers il y a plus de 125 ans, mais qui n'a jamais autant été dans l'air du temps. L'ESA, l'école supérieure des agricultures, c'est l'école des transitions agroécologiques, alimentaires et numériques. Autrement dit, si vous voulez un endroit, si vous voulez un métier utile, ancré dans le réel et tourné vers l'avenir, vous êtes au bon endroit. Habilité par la commission des titres d'ingénieur et membre de la conférence des grandes écoles, l'ESA forme chaque année 2800 étudiants sur son campus d'Angers. Un campus de 4 hectares en plein cœur de la ville, ce qui en fait aussi un cadre de vie très agréable au quotidien. L'ESA propose une large gamme de formations allant du BTS au master, ainsi que des formations d'ingénieurs. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez intégrer l'ESA à différents niveaux de votre parcours. Trois grandes voies s'offrent à vous après le bac. Le BTS agricole, en formation initiale ou en alternance, pour une entrée rapide dans le monde professionnel. Le bachelor, un bac plus 3 professionnalisant. Et bonne nouvelle, l'ESA prévoit d'ailleurs l'ouverture d'un nouveau bachelor agro à la rentrée 2026, centré sur les productions végétales et l'adaptation des systèmes agricoles face aux enjeux climatiques. Et enfin, le cursus agronome en 5 ans, le diplôme phare de l'école. Les débouchés ils sont très variés, ingénieur agronome, technico-commercial, conseiller en élevage, responsable de projet en innovation agricole et agroalimentaire. Des métiers qui recrutent avec des vraies perspectives d'évolution. Côté financement, il faut être transparent, l'ESA c'est un établissement privé. Les frais de scolarité pour le cursus ingénieur, ils s'élèvent à 7 418 euros pour l'année 2025-2026. C'est un investissement, mais l'école propose des aides au financement et de nombreuses formations sont disponibles en alternance, ce qui permet d'être rémunéré tout en étudiant. Et pour celles et ceux d'entre vous qui seraient en réorientation, sachez qu'il est possible d'intégrer l'ESA en cours de parcours, notamment via les licences professionnelles ou le bachelor, accessible après un BTS ou une L2. Pardon. Vous n'avez donc pas besoin de repartir à zéro. Toutes les informations sont disponibles directement sur le site groupe-esa.com. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et si l'ESA vous intéresse, ma chronique est disponible quand vous le voulez sur notre site radio-g.fr dans la rubrique Étudiant Time.
Merci Colin pour ce focus. Si tu te poses des questions sur ton orientation, c'est typiquement le genre d'info qui peut t'aider à y voir plus clair. On souffle un peu avant la suite avec une nouvelle pause musicale. Profitez de Fire in My Heart, comment on dit par Escape from New York. Bonne écoute, à tout de suite. We'll be right back. venez d'écouter Fire in My Heart par Escape from New York. Vous êtes toujours sur Étudiant Time. Et là, on va aborder un sujet qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. J'accueille mon invitée du jour, Emma, qui est avec nous. On va parler des voyages humanitaires, ce qu'on imagine, ce qu'on vend aux jeunes et la réalité derrière. Bonjour Emma.
Bonjour Myria.
C'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce qu'on entend beaucoup, on en entend beaucoup parler et que ça part souvent d'une très bonne, intention, aider, se rendre utile, découvrir une autre réalité. Mais en creusant un peu, on se rend compte que c'est pas toujours aussi simple et que parfois, sans le vouloir, on peut ne pas aider autant qu'on le pense. L'idée ici, ce n'est pas du tout de critiquer les personnes qui s'engagent, au contraire. C'est plutôt de mieux comprendre et de voir comment on peut être utile de la manière la plus juste possible. C'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à quelqu'un qui l'a vécu directement. Et c'est aussi important de dire quelque chose. Vouloir aider et se sentir bien en aidant, c'est normal. Il ne sera pas vraiment question de ça dans cette interview. Et pour en parler, je suis avec donc Emma qui est partie au Togo. Emma, avec quelle association est-ce que tu es partie ?
Je suis partie avec l'association AVST, c'est une association togolaise, et qui avait envoyé une offre de stage à ma fac pour la durée sans droit de l'enfant, et puis j'ai rejoint l'asso comme ça.
Et concrètement, combien est-ce que ça t'a coûté ce voyage, si c'est pas indiscret ?
Ça m'a coûté beaucoup trop cher.
C'est pour savoir à qui est-ce que t'as dû de l'argent ? Est-ce que c'était plutôt juste une question de voyage avec l'avion ? Est-ce que c'était plutôt pour ton propre logement, ta propre nourriture, etc. D'ailleurs, pour information, t'es partie avec une amie à toi,
oui.
Qui était dans ta fac.
Oui, c'est ça, ouais.
Ok, et du coup, voilà. Donc, les questions, à qui est-ce que t'as dû donner cet argent qu'est-ce que ça revenait ?
L'argent est super important dans l'humanitaire. Ça nous a coûté à peu près 2100 euros en tout. Et on n'avait pas cet argent, donc on avait créé une cagnotte. Et le plus cher, c'était le billet d'avion. Et on vivait dans une maison avec plein de Togolais et d'autres bénévoles français qui faisaient des trucs un peu dans d'autres assos. Et le loyer, c'était 350 euros par mois. En fait, c'était giga cher parce que c'est quasiment mon loyer en France.
Ouais.
Et la maison, c'était... On vivait dans un quartier pauvre du Togo. Et on n'était pas dans une villa entre blancs. Et la maison, était vraiment... On n'avait pas de frigo. Enfin, on était à 4 par chambre. Le ventilo ne marchait pas, il faisait 40 degrés. Enfin, il n'y avait rien de luxueux. Le loyer était vraiment cher par rapport à d'autres.
Et est-ce que tu sais, en soi, parce que du coup ça signifie que l'argent n'était pas vraiment pour les conditions que vous aviez, à qui est-ce que ça profitait ?
Oui, bah, ça profitait carrément au président de l'asso, qui lui vit en France,
ah.
Et qui n'est pas tout à fait présent, et qui fait 3-4 allers-retours par an France-Togo. Quand je dis quand le billet d'avion coûte plus de 1000 euros, on se doute bien de à quoi sert l'argent. On s'en doute pas trop avant de partir, c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure sur place.
Bah oui, j'imagine. Est-ce que c'est toi qui l'as déduit ? Est-ce qu'on vous expliquait comment l'argent était réparti ?
Non, on l'a déduit. Au début, on nous disait que l'argent était utilisé pour... Déjà, les photos de la maison ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est des photos un peu trompeuses sur Google. Quand on tape le nom de l'asso, c'est une villa majestueuse. En réalité, c'était juste 4 murs et 3 chambres.
C'est le bon coin, genre.
Exactement. C'est quoi la question ? Comment je l'ai déduit,
oui.
Et donc dans les fichiers de l'asso, quand l'asso est présenté sur Google, c'est écrit que l'argent qui est en trop sert à financer un puits ou à financer des actions locales. En fait, on n'en voit jamais la couleur.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir quand t'as vu cette annonce de ta fac ?
Alors à ce moment-là, moi j'étais en master de droit et je voulais vraiment, je veux toujours travailler en protection de l'enfance. Et l'annonce c'était être juriste en droit de l'enfant dans un centre qui accueille des enfants victimes de violences sexuelles, de maltraitance, d'esclavage. Ou des filles qui sont mères, des ados mères, qui sont abandonnées par leur famille. Et l'offre de stage, c'est vraiment ce que je voulais faire plus tard. Ça m'a vraiment motivée. Et je sais que les missions que je pouvais avoir au Togo, c'est tellement important que j'aurais pas pu avoir ces missions en France si j'avais fait mon stage en France.
Et ouais. Tu saurais expliquer pourquoi ?
Ah oui, en France, c'est très carré. Et la place qu'on donne aux stagiaires, surtout pour juste, je suis partie que 2 mois, j'aurais pas pu avoir autant de prérogatives et j'aurais juste observé si j'étais en France. Au Togo, j'ai pu être chef, j'ai pu être moteur dans une équipe, j'ai pu avoir plein de contacts avec les enfants. C'était vraiment un job.
Ok. Et du coup, à ce moment-là, donc avant de partir, comment est-ce que tu pensais être utile concrètement dans cette mission ?
Je pensais que j'allais, je pensais que j'allais vraiment pouvoir aider les enfants au quotidien, que j'allais révolutionner la façon dont on traite les enfants au Togo, que Nini. et oui, enfin la réalité était bien plus dure.
Avant de partir, est-ce que tu t'étais préparé genre à la culture locale, à la langue, juste à ta mission au fonctionnement de la protection de l'enfance au Togo? Et en gros, ma question c'était aussi, est-ce que c'est des choses que t'as, si c'est le cas, est-ce que c'est des choses que t'as dû rechercher par toi-même, ou est-ce que la fac vous donne des infos, est-ce que l'organisme vous donne des infos pour que ça se passe au mieux, quoi?
La fac nous donne zéro info. La fac n'a jamais vérifié si cet asso était éthique ou pas. Et d'ailleurs, mes profs m'ont jamais envoyé un message pour savoir si ça se passait bien le Togo. Juste, ils m'ont laissé partir comme ça.
On va en reparler après.
L'association donne. C'est dur de trouver des infos. Après, il y a un contexte local où ils ne sont pas très réseaux sociaux. Enfin, ils ne maîtrisent pas tellement ces outils-là, donc c'était pas. Enfin, c'était normal de ne pas trop trouver d'infos. Mm-hmm. Enfin, normal, je sais pas en fait.
Je sais pas si c'est normal.
Mais quand moi j'ai travaillé là-bas, j'ai vu que les réseaux sociaux, enfin faire de la communication, c'était pas du tout dans les mœurs. Enfin, une fois là-bas, j'ai compris. Et comment j'ai trouvé ces infos?
Ouais.
Du coup, j'ai cherché. Et oui, pour la culture, j'ai eu de la chance. La fac avait publié un article sur notre départ. Et il y a un doctorant en droit qui est togolais. Et qui retourne au Togo au même temps que nous, vraiment sur les mêmes dates. Donc, il nous a vachement préparé à la culture. Il nous a donné plein de tips sur comment on négocie sur les marchés, la langue. Après, c'est une langue technique. Genre, on ne pouvait pas prendre la langue comme ça, mais...
De toute façon, il parle aussi français et
allemand,
anglais, je crois.
Allemand, ouais. Mais surtout français.
Okay. Oui, du coup, en fait, vous pouviez communiquer normalement, quoi. Enfin, normalement. Pas du tout le bon mot. Je veux dire, vous n'aviez pas eu besoin de faire d'efforts en particulier, je veux dire, pour discuter avec les gens.
Oui, après, tout le monde ne parle pas français. Et puis, il y a aussi ce regain de... comment dire, de se séparer de la France et de cet héritage. Si on parle français, parce que c'était une colonie.
Bien sûr.
Donc, et la langue togolaise s'est levée. Il y a vraiment beaucoup de gens qui c'est presque un acte militant de parler levé. Et puis, pour parler français, il faut quand même avoir eu accès à l'éducation. Et nous, on était dans la capitale, Lomé, mais si on s'éloigne dans les villages, les gens parlent moins français.
Est-ce qu'une fois sur place, dans tes missions concrètes, est-ce que tu as ressenti un décalage entre ce que tu pensais faire et la réalité?
Ouais, totalement. Déjà, on a beau se préparer à la culture, il faut vivre. Mon cerveau n'est pas tant prêt à s'éloigner de nos modèles qu'on a enregistrés depuis tout petit. Et j'avais pas conscience d'à quel point il y avait un décalage entre la façon dont on traite les enfants en France et au Togo, notamment sur les violences sexuelles.
Et dans tes cours de droit, vous voyez pas ça? Ou est-ce que vous voyez que par le prisme européen, je veux dire, ou français?
En cours de droit, non, on n'aurait jamais abordé ça. On voit le prisme français.
Ok.
Et après, j'avais un biais parce que le droit togolais s'inspire du droit français. La colonisation, toujours. Et donc, je me suis dit, c'est le même droit, ce sera la même chose. Et pas du tout. C'est le même droit, mais l'application est différente. Et il y a une culture aussi qui s'entremêle à ça. Et puis, le rite, la culture, c'est les mêmes tribunaux, c'est le même fonctionnement. Mais il y a une culture aussi de la corruption, de la négociation qui est là, qui n'est pas du tout présente en France. Et puis le rythme de travail n'est pas le même. Ce qu'on appelle un juriste en France et ce qu'on appelle un juriste au Togo, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai plus fait fonction d'assistante sociale que de juriste. Mais après, c'est une expérience. Enfin, c'était pas. Mais j'ai adoré mes missions. Juste, c'était pas ce que j'attendais.
Oui, je comprends. Donc, du coup, oui, il y avait quand même un écart entre l'image que tu faisais avant et sur le terrain. Est-ce que du coup tu t'es sentie un peu impuissante face, par exemple, tu parlais du fait que l'éducation des enfants était vraiment différente. J'ose imaginer que c'était dans un sens peut-être de violence excessive ou quelque chose comme ça.
Ouais, les enfants n'ont pas de droit au Togo. Enfin, c'est affreux. Et impuissance, c'est vraiment le mot qui résume tout ce voyage. Mais c'est affreux. Enfin, les enfants sont maltraités, même par les institutions elles-mêmes. Je me souviens, j'ai accompagné une jeune fille qui devait porter plainte pour agression sexuelle dans un commissariat. Mmh. Et le policier, il se moquait presque d'elle. Il demandait si c'était sa faute. Enfin, c'était vraiment une fillette, quoi.
Elle avait quel âge?
Elle avait 10 ans.
Wow.
Et c'était vraiment un... Enfin, son agression était vraiment super violente. Enfin, il fallait pas prendre l'entretien de ce genre. Enfin, le policier aurait pas dû réagir comme ça. Et c'était affreux. Et pour ces enfants qui sont maltraités, c'est une double peine sans cesse.
Est-ce que du coup on explique ça par un manque de moyens dans ces institutions ou pas spécialement pour, je veux dire, à propos de la protection de l'enfance, enfin, c'est vraiment le thème, quoi, et pourtant il y a quand même des employés qui réagissent de cette manière.
Je pense que c'est aussi ce qu'a connu la France, c'est il faut un changement de mentalité. Ça reste une culture très patriarcale, le Togo, et par exemple il y a une culture violente aussi. Jusqu'à très peu de temps, les professeurs pouvaient encore frapper les élèves. Jusqu'en 2014, les professeurs pouvaient donner des coups de bâton aux élèves. Et ça s'est toujours pas arrêté. qui a quand même une culture de la violence. Et le centre dans lequel je suis, dans lequel j'étais, c'était le premier et le seul centre de protection de l'enfance au Togo. Et donc c'est dire à quel point c'est un sujet qui est très récent, protection de l'enfance. Je pense que ce changement de mentalité, il va faire son petit bonhomme de chemin, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Mais le fait que ce centre existe, c'est déjà un changement.
Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, tu vois les choses différemment ?
Sur quel sujet ?
À propos du fait de partir à l'étranger.
Oui. Bah, je sais que je ferai plus d'humanitaire. Si je devais faire de l'humanitaire, déjà maintenant j'ai mon regard évolué dessus. Et je pense que l'humanitaire, il y a. Déjà on dit humanitaire pour le Togo, mais c'est faux. Enfin, je pense qu'il faut.
Belle situation de crise.
Exactement, oui, l'humanitaire c'était plus du bénévolat ou du volontourisme.
Je vais en parler.
J'imagine. Mais maintenant je connais le business de l'humanitaire, je vois à quel point c'est un chemin qui est pavé de bonnes intentions, mais qui entretient un système super nocif. Et si je devais faire de l'humanitaire, ce serait un métier maintenant. Ce serait pour créer des vrais programmes avec l'UNICEF, un truc hyper carré. Mais j'encourage pas du tout les gens à partir 2 mois comme ça. Et ouais, d'ailleurs, je répugne les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs qui ont dans leur programme, les élèves doivent faire 6 mois à l'étranger dans un stage humanitaire. Et s'ils le font pas, ils payent pas leur année.
Bah en fait, ouais, c'est une inconscience en fait de la part des universités qui partent du principe que ça fera beau sur le CV, quoi.
C'est une ouverture sur le monde.
Mais c'est peut-être un peu innocent en vrai. C'est peut-être une forme de bonne intention, mais juste ils se rendent pas compte des effets négatifs que ça peut avoir. D'ailleurs, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est un sujet. Bah déjà, les gens sont pas forcément au courant que c'est pas tout rose le voyage humanitaire, quoi. Moi, j'ai appris ça peut-être seulement l'année dernière. Il y a France Culture qui a fait une super émission sur ça. Plusieurs influenceurs qui en parlent aussi, mais je veux dire, c'est pas si courant. C'est pas tout le monde qui est au courant de cette situation. Et du coup, justement, tu me parlais du volontourisme. Juste pour expliquer pour les auditeurs, c'est un mot qui vient de volunteer et tourism, donc bénévolat et tourisme. Il apparaît dans les années 90 et au départ, en fait, c'était neutre. Mais aujourd'hui, c'est parfois critiqué parce que certaines missions peuvent davantage profiter aux volontaires qu'aux populations locales. Et ça peut même, en fait, dans le meilleur des cas, rien faire du tout et pas du tout aider. Et le pire des cas, empêcher carrément le développement des missions en fait que les locaux pourraient faire eux-mêmes. Ou avec des professionnels qualifiés. Quoi. Est-ce que avec ton expérience, du coup, c'est un terme dans lequel tu te reconnais ou pas du tout? Parce que tu parles quand même de bénévolat.
Oui. Après, je sais pas si c'est ta définition, mais moi, dans le volontourisme, ce que j'avais vu, c'est le fait de vouloir avoir une expérience exotique tout en faisant une mission utile à côté.
C'est ça. Parce qu'en fait, à la base, ça vient un peu des agences de voyage qui avaient un peu tout mixé pour que du coup, enfin, pour donner envie aux gens en fait de faire ça, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu attractif à se dire. Ah ouais, trop chouette. Effectivement, ça va être un peu des vacances, quoi. Mais c'est pas tant un truc dans la misère, machin. Ouais. Donc oui, c'est plus attractif.
Et donc ta question, c'est est-ce que je me suis reconnue là-dedans ?
Oui.
Oui, par la force des choses, mais après, je suis pas partie pour ça. En fait, moi, c'était vraiment
pour ton projet pro.
Si l'offre de stage avait été en Belgique, je serais en Belgique. Après, c'est sûr, en Belgique, le coût de la vie aurait été plus cher qu'au Togo, c'est sûr. Et en même temps, c'est ce que je m'étais dit au début, mais finalement, quand tu mets tous les coûts pour aller au Togo bout à bout, bon, finalement, dans un pays européen, ça aurait été les mêmes coûts. Mais après, je trouve que le Togo, il doit être dans les top 10 des pays les plus pauvres du monde. Donc, ce truc exotique, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit vraiment recherché. Je pense que c'est plus lié aux pays en voie de développement, genre le Cambodge, l'Inde, où ce truc de tourisme est très très développé. Au Togo, il n'y a pas tant de politique de tourisme. Il y a quelques lieux iconiques où on emmène les touristes, mais c'est pas. Il est dur à. C'est difficile de dire qu'on va au Togo pour le tourisme.
Mais tu penses pas qu'il y a un côté. En fait, par exotisme, c'est pas forcément que voyage, je pense qu'il y a un côté un peu. On parle de. White saviorisme, c'est ça en gros, ce truc de. Tu vas vraiment être dépaysé dans un endroit qui est complètement à l'opposé tu vois ce que je veux dire. Et du coup, t'as ce côté de. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'être un super-héros dans cette situation, quoi. Et puis en fait, tu l'as dit vite fait, mais tu disais, je partirais pas, je conseillerais pas de partir juste 2 mois, machin. Est-ce que c'est surtout ça? Enfin, c'est pas que ça, mais c'est aussi l'un des problèmes, c'est que il y a beaucoup de voyages humanitaires qui sont très courts, enfin très courts, tout est relatif, mais c'est quand même court pour un projet qui est censé être long terme. Et le fait que les gens changent à chaque fois, que c'est tout le temps des nouvelles têtes, et qu'il faut tout réexpliquer à chaque fois, ou on n'a pas la même vision, enfin en fait, ça fait perdre beaucoup de temps. Pour les locaux et les personnes sur place. Quoi.
Oui, totalement. Je peux rebondir ?
Oui, bien sûr.
Et justement, après mon voyage, j'ai vachement réfléchi à ce que j'avais fait. Et je me suis dit que si jamais quelqu'un voulait partir par un voyage militaire qui me posait la question, je dirais qu'il faudrait vraiment questionner la question du sens de ce voyage. Et qu'il y a des critères maintenant très précis. Moi, j'ai établi, j'ai auto-créé des critères pour définir la balance positive, négative de ce voyage. Et la question de la durée, c'est vraiment c'est primordial. Dans mon asso, il y a une fille qui était venue que pour 2 semaines ou 3 semaines. Alors, c'était ses vacances d'été. Enfin, elle a pris ses vacances pour venir au Togo. Le matin, elle allait à l'orphelinat. L'après-midi, elle allait à la plage. Là, c'est terrible comme voyage. Elle a fait 3 photos Insta avec des enfants noirs et elle est repartie. Quoi. Ouais,
c'est vraiment le cliché.
C'est, ouais, c'est affreux. Et donc, la durée, et je pense qu'une bonne 6 mois, c'est le minimum. Je pense, et encore, enfin. Et la durée, ça va aussi avec le critère de l'action structurelle. Ça sert à rien d'aller dans un orphelinat, donner 4 cours de français, de repartir. Si on fait un voyage militaire, c'est pour ça que je disais que c'est un métier, en fait, c'est de créer des programmes qui sont structurants et de faire en sorte que les locaux puissent s'approprier ces programmes et qu'ils ne doivent pas dépendre de nous. Par exemple, chez Togo, comme dans beaucoup de pays, il y a le problème des enfants qui sont à la rue. Ça sert à rien que 3 blancs viennent donner le soir à manger aux enfants. Il faut créer une structure qui accueille ces enfants et faire en sorte que les personnes togolaises qui soient compétentes là-dedans aient au moins un financement pour faire perdurer la structure. Mais il ne faut pas que les Togolais ou les personnes locaux dépendent de l'action des Blancs.
Complètement. Tu me disais que tu étais en contact avec des enfants, du coup. Et comment est-ce qu'ils vivaient votre présence?
Ils s'y habituent très bien et ça se voit que y a une image très précise du Blanc. Et c'est pour ça que l'humanitaire, ça peut vite perdre de sens parce que un blanc arrive, il remplace un autre, puis il sera remplacé par un autre dans 3 semaines. Et du coup, pour eux, vu qu'il y a une culture un peu violente, et qu'on ne l'est pas, nous, il y a ce truc de le blanc, c'est celui qui va me faire des câlins, et puis à la fin, il va m'acheter des trucs. Et,
du coup, ça devient un peu un moyen, du coup.
Ouais, mais malgré eux, enfin, je comprends.
Oui, parce que ils sont petits, quoi.
Mais puis on est très. Et d'ailleurs, je pense qu'on se permet beaucoup de choses avec ces enfants. Bon, on les connaît pas, on va prendre des photos, direct, on va leur faire des câlins. Si on est dans 6 mois, je suis dans un jardin en France, un jardin public, je vais pas direct aller voir un enfant lui faire un câlin.
Oui, c'est vrai.
Le fait qu'il soit associé à une mission militaire, on crée une proximité tout de suite. Mais le contact avec les enfants se fait très bien, mais aussi parce que c'est quand même une vie de collectivité. Il y a très peu de barrières. Enfin, les enfants sont habitués à la collectivité de toute façon.
Mais après, est-ce que, parce que du coup, de ce que je comprends, ils s'attachent quand même facilement. Et du coup, je pense que ça peut rajouter quelque chose. Enfin, on parlait de violence, c'est pas aussi violent qu'un viol ou une attaque physique. Mais je veux dire, le fait d'à chaque fois s'attacher à quelqu'un et que la personne te reparte pour toujours la plupart du temps, ça doit être une certaine violence, ouais, créer un attachement insécure, quoi.
Totalement, je trouve que c'est hyper négatif. Et je pense entretenir cette image du blanc qui fait que c'est juste quelqu'un qui vient, qui repart, et pas de permanence. Et moi, j'aimerais trop questionner un jour c'est imaginaire, mais si je pouvais, genre un gamin que j'ai vu quand il avait 6 ans au Togo, et le revoir à ses 26 ans, il me dit, mais c'était qui pour toi les blancs? Je crois, il me dirait, mais c'est juste des gens qui venaient, qui repartaient, on sait pas trop ce qu'ils faisaient là. Et ce serait intéressant d'avoir leur vision. Mais oui, c'est sûr, je pense que les pires missions sont les missions en orphelinat. Parce que là, il y a vraiment ce truc de je vais faire des câlins à des enfants pendant 2 semaines, je vais faire des jeux, et après je pars. Et c'est tout. Et ça, c'est le plus dur, je pense.
C'est ça. Est-ce que, si quelqu'un nous écoute et a envie d'aider, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
Ça dépend à quel point il est prêt à s'engager dans. Parce qu'il y a la notion d'engagement, c'est important, dans ce genre de contexte. À quel point il veut s'engager dans cette aide. Le truc le plus simple, quand on a les moyens, c'est l'argent. En même temps, après avoir été sur place, je vois à quel point il n'y a aucun contrôle sur l'argent. C'est pas ce que ça devient. Et le plus sûr, c'est de donner à des organismes très reconnus comme l'UNICEF.
Médecins sans frontières.
Ouais, la Croix-Rouge. Et encore, c'est des associations qui ont déjà énormément de dons depuis très longtemps. Pour autant, la situation de ces pays, elle évolue pas plus. Je suis pas sûr que l'argent soit toujours un moyen quand même pour aider. Et sinon, je pense que, après une grande réflexion, pense qu'il faut plutôt aider les gens qui sont proches de nous et s'inscrire dans aller dans des associations françaises. Et ce que je disais tout à l'heure, pouvoir avoir une action qui soit récurrente, structurelle. Et s'engager, genre aller au Resto du Cœur ou dans. En France, on peut aussi être bénévole dans des foyers de l'enfance. Et genre aller dans des foyers toutes les deux semaines, week-end. Parce que c'est bien plus pertinent que partir de Semaine au Togo ou ailleurs.
Oui, c'est ça, enfin, complètement. J'allais dire qu'on peut aussi rappeler qu'il existe le service civique, des engagements locaux, comme tu as dit, où il y a aussi des missions longues avec des ONG, mais qui du coup sont vraiment très reconnues comme Médecins Sans Frontières ou tu m'as parlé de la Croix-Rouge aussi. Parce que l'idée, c'est pas forcément partir loin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Oui, justement, deux trucs à rajouter. J'avais dit, il y a trois critères pour faire un voyage utile. Donc il y a ce truc de la durée et de la mission, l'action structurante qu'on va apporter. Le troisième critère, c'est la compétence aussi. Parce que par exemple, j'en parlais avec quelqu'un que j'ai rencontré au Togo. Il y a des gens, ils étaient étudiants, jamais de leur vie, ils auraient donné leur temps en France à faire des cours à d'autres gens. Alors qu'il y en a plein des offres pour faire des devoirs aux enfants. Et là, ils disent, ok, je pars au Togo, je claque 2000 euros, et d'un coup, je me sens compétent à donner des cours de français à des enfants dont je connais pas la langue, parce que les enfants parlent pas très bien français, ni la culture. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment questionner la compétence qu'on peut apporter là-bas.
Complètement.
Et du coup, si quelqu'un n'est pas prêt, si quelqu'un part pour faire un truc qu'il ferait pas en France, c'est hyper hypocrite. Et du coup, ça manque de sens. Et le deuxième truc que je peux ajouter, c'est si quelqu'un recherche de l'aventure et de l'exotisme, entre guillemets, il y a un truc qui est sympa, c'est le woofing. J'ai découvert ça hyper tard. Et il y a l'idée qu'on va aider une personne qui c'est souvent des fermes, des communautés autonomes. On les aide à créer leur projet. On donne un coup de main à la ferme. En échange, ils nous logent. Et il n'y a pas d'histoire d'argent et c'est juste un donnant-donnant. Et on peut faire ça dans plein de pays dans le monde. Je trouve que c'était le truc le plus pertinent si on veut partir loin et faire un truc utile. Hors service civique.
Ouais, merci beaucoup, Emma. Merci pour ton témoignage et pour ta sincérité. Ce qu'on peut retenir du coup, si t'es d'accord avec moi, c'est que vouloir aider c'est essentiel, mais que ça demande de se renseigner, de comprendre les contextes et de réfléchir à son impact. C'est un sujet important, surtout quand on est étudiant et qu'on cherche à s'engager ou à donner du sens à ce qu'on fait. Mais on va continuer sur quelque chose de plus léger et qui nous concerne tous au quotidien, le jugement. Dans cette chronique santé mentale, on va essayer de comprendre pourquoi on juge et surtout ce que ça dit de nous. Vous le savez, je suis aussi étudiante en psychologie et lors d'un projet de groupe, on a créé un questionnaire sur le rapport au jugement. Près de 200 personnes y ont répondu, majoritairement des jeunes étudiants, et on a pu en faire une analyse grâce à nos cours. Je vais vous en faire un résumé parce que c'est intéressant. Déjà, premier constat, 91% des personnes pensent que juger est humain. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que 82% pensent aussi que le jugement est trop présent dans notre société. Donc en résumé, on juge, on sait qu'on juge, mais on trouve qu'on juge trop. Ça pose un paradoxe intéressant. En psychologie, le jugement a une fonction. Il sert à se repérer rapidement dans le monde. On évalue une situation, une personne, un comportement pour savoir si c'est dangereux, acceptable ou conforme aux normes. C'est aussi un outil social. Juger, c'est envoyer un message sur ce qui est attendu ou non. Ça permet de réguler les comportements dans un groupe, comme l'expliquait le sociologue Émile Durkheim. Mais ce qui ressort aussi, c'est que le jugement n'est pas seulement social, il est souvent émotionnel. Dans notre étude, les principales raisons de juger, ce sont la colère, l'indignation, l'impulsivité. Donc souvent, le jugement devient une manière d'extérioriser ce qu'on ressent et de se soulager, de reprendre un certain contrôle. Autre point intéressant, 91% des personnes disent ne pas laisser de commentaires négatifs en ligne. Ça montre que les commentaires violents que l'on voit sur Internet ne représentent pas la majorité, mais plutôt une minorité plus visible, souvent plus impulsive. Mais ça ne veut pas dire que le jugement disparaît, loin de là. 85% de ces personnes disent utiliser l'humour pour juger et 83% reconnaissent que l'humour peut être une forme de jugement. Donc aujourd'hui, le jugement est souvent plus indirect. Il passe par des blagues, de l'ironie, des remarques implicites. C'est aussi lié à une autre tension. On a une norme très forte de bienveillance. On veut être perçu comme quelqu'un de respectueux et d'ouvert. Donc on ressent une forme de gêne, voire de honte à juger, parce que ça ne correspond pas à cette image. Mais en même temps, on continue à le faire. Et c'est là qu'intervient ce que le psychologue Léon Festinger appelle la fameuse dissonance cognitive. On ajuste nos discours pour rester cohérent avec l'image qu'on a de nous-mêmes. On va dire par exemple « oh, c'est juste de l'humour » pour rendre le jugement plus acceptable. Et cette pression du regard des autres, elle a été bien étudiée aussi, notamment par Solomon H, qui a montré à quel point on peut se conformer aux autres, même quand on sait qu'ils ont tort. Bien sûr, ce type de questionnaire a aussi des limites. Certaines personnes ont pu répondre en voulant donner une bonne image d'elles-mêmes ou même se convaincre qu'elles ne jugent pas. On parle ici de biais de désirabilité sociale. Enfin, est-ce que nos jugements sont nos vraies pensées ou est-ce qu'on a intégré sans s'en rendre compte des normes, des réflexes, des façons de penser qui ne nous correspondent pas forcément ? Si on résume, le jugement est utile, il est humain, mais il est aussi ambivalent. Il sert à réguler les normes sociales, mais aussi nos émotions. On le critique, on en souffre, mais on continue à l'utiliser, souvent sans avoir pleinement conscience de ce qu'on fait. Dans ce cas, c'est bien de se demander, avant de l'extérioriser de manière passive-agressive, pourquoi on a ressenti ce jugement, qu'est-ce que ça veut dire sur nous, et pourquoi est-ce qu'on le ressent, ce besoin de le faire savoir à l'autre. On arrive doucement à la fin de cette émission. Malo, c'est à toi pour le mot de la fin.
J'ai plus d'essence. J'ai plus d'essence, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. J'ai mis 30 balles il y a 20 minutes, j'ai fait 10 mètres. Je suis venu à la radio en poussant ma voiture, comme tu fais, comme t'as crevé en vélo, sauf que la seule chose qui canait, c'est mon portefeuille. Mais bonne nouvelle. Bonne nouvelle, chez c'est la faute à qui ? C'est j'ai mis CNews, en fait, ils l'ont dit, c'est la faute aux Arabes. Donc, alors, j'ai pas réussi à savoir si c'était de la faute aux Arabes qui volent notre travail, aux Arabes qui volent notre chômage, de ceux qui subissent un génocide, ou de ceux à qui Donald Trump est en train d'apporter la démocratie à grands coups de missiles dans la gueule. Mais c'est leur faute. D'ailleurs, Trump, il est malade. Hein. Il est vraiment malade. Le mec, tous les jours, il dit un truc, le lendemain, il dit l'inverse. Il a dit, non, mais en Iran, là, c'est pas une guerre, parce que pour que ce soit une guerre, il faudrait l'accord du Congrès. Et puis, ils n'étaient pas du tout d'accord pour que j'y aille, donc c'est pas une guerre. Heureusement que ce type n'est pas président de la première puissance mondiale, parce que putain, s'il respecte les lois comme il respecte le consentement des enfants sur l'île privée de son pote, on n'est pas dans la merde. Trump, il veut augmenter le budget de l'armée de 1,5 trillion de dollars. Un trillion, c'est un 1 avec 12 zéros derrière. Un truc avec autant de zéros, en France, on appelle ça un conseil des ministres. Parce que zéro, il y en a beaucoup et tout. Enfin, après, moi, je suis bénévole, hein, les blagues, elles sont pas... Voilà. 1,5 trillion, c'est beaucoup trop grand comme chiffre, nous on peut pas se représenter ça dans notre tête, donc j'ai fait la conversion en essence, à peu de choses près, il y a de quoi faire un Paris-Marseille. Voilà. Quasiment. C'est la merde partout. C'est vraiment la merde partout. En Inde, les personnes transgenres n'existent plus. Ça y est, pouf, ils ont fait passer une loi, c'est interdit maintenant. Au Sénégal, pareil, les LGBT, c'est prison, parce que l'égalité des droits, ça sonnait trop 20e siècle. Mais en France, il y a pire. Je sais pas si vous l'avez vu, les médias n'ont pas trop parlé, mais c'est choquant, attention, on a eu récemment un maire noir.
Mais non.
Ouais. Là, je sens que j'ai jeté un froid sur le plateau. Il paraît même que bientôt, ils pourront s'asseoir où ils veulent dans les bus. J'ai vu ça. Moi, je dois juste avouer que je suis un peu triste que Le Pen père soit plus là pour voir ça, parce que ça aurait été marrant. Remarquez, on n'aurait rien compris parce qu'il parlait comme un Looney Tunes avec Gilles de la Tourette, le Borgne. Mais bon, ça aurait été un peu marrant. Peut-être même qu'il aurait fait un arrêt cardiaque en direct. En tout cas, étudiants et étudiantes, ne vous inquiétez pas, car votre président adoré est sur le coup. Bon, là, il est en Corée. Il fait des photos avec BTS. Mais ça devrait pas tarder. Hein. Demain, peut-être. Là, Macron, ça fait 9 ans qu'il est président et apparemment, il y aurait des gens qui voudraient voir une autre couleur politique. Il paraît que certains en France en auraient marre d'Emmanuel Macron. Encore une fois, pas de panique. Les médias ont la solution et c'est Édouard Philippe. Pour ceux du fond, Édouard Philippe, c'est le chauve qui a envoyé des CRS sur les gilets jaunes, qui veut la retraite à 67 ans, qui trouve que la colonisation, ça va, et qui a dit, je cite, « Je ferai en sorte qu'on travaille plus longtemps dans la semaine, dans l'année et peut-être plus longtemps dans la vie. » Voilà, après ce bilan très positif de l'actualité, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Malo, comme d'habitude. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission d'Étudiant Time. Aujourd'hui, on aura parlé d'actualité étudiante avec Colin, de culture avec Malo. On aura débattu ensemble, découvert l'ESA, pris du recul avec Emma sur les voyages humanitaires. Et on a aussi pris un moment pour parler du jugement dans la chronique santé mentale. Merci à toute l'équipe, Colin, Malo et bien sûr Emma pour sa présence. C'était Myria, merci à toi de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Vous êtes bien sur Radio G.
www.radio-g.fr